Tout est écrit pour nous instruire afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent nous est donné, comme vous le savez, comme un temps de préparation à Noël. Et comme son nom l'indique, il nous dispose à accueillir un avènement, c'est-à-dire finalement la réalisation de la promesse de Dieu annoncé par les prophètes et relaté finalement par toutes les saintes écritures. C'est le fondement de notre espérance parce que là, dans cet avènement, s'accomplit finalement ce qui a été annoncé. L'Église, comme une bonne pédagogue, nous offre un moment privilégié pour nous réapproprier tout le mystère de la rédemption. En quelques semaines, nous aurons la chance de relire tout le plan de Dieu pour sauver l'humanité rendue captive par le péché, par la faute de nos premiers parents. Ce temps liturgique est court, en effet, mais il nous permet de raisonnablement aimer celui qui veut partager sa propre divinité avec sa créature. Le fruit que l'Avent peut porter en nous, c'est l'espérance, cette certitude d'acquérir les biens à venir, c'est-à-dire le bonheur, le soulagement de nos souffrances, la joie de vivre éternellement avec Dieu en son royaume. Par notre baptême, nous l'avons déjà acquis, nous ne pouvons pas en jouir totalement encore, mais nous sommes sûrs de jouir bientôt totalement de ce que nous possédons déjà entièrement aujourd'hui. C'est pour nous source de persévérance dans notre pèlerinage sur la terre, et c'est ce qui donne aussi du courage. Mes chers frères et sœurs, revenons un instant, si vous me le permettez, sur la prédication de Jean le Baptiste. Si Jean sait être encourageant avec les humbles, il sait aussi être particulièrement dur avec les orgueilleux. S'il veut rassurer les petits, il sait aussi réveiller ceux qui se croient arrivés à une certaine perfection de leur pratique religieuse. Jean le Baptiste a l'art de nous faire revenir au point de départ. Engeance de vipère. Qu'est-ce à dire? Engeance de vipère revient à nous appeler fils du serpent. Cela n'est pas sans nous rappeler que nous sommes fils d'Adam et Ève, bien sûr, mais aussi héritiers de leur complicité avec le diviseur, le menteur, le serpent, celui que l'on appelle le démon. Si Adam et Ève étaient condamnés à errer à la porte du paradis, Dieu n'a pas voulu en rester là. Dieu, pour cela, s'est représenté une autre fois, s'est révélé, comme il l'avait fait à Adam. Il s'est montré une nouvelle fois à Abraham, à Moïse, à nos pères dans la foi. Dieu leur a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et suite à la malédiction d'Adam et Ève, eh bien Dieu fait espérer une certaine bénédiction dans une descendance nombreuse et vaste. Mais force est de constater que pour les Juifs, Dieu semble tarder à accomplir ce à quoi il s'est engagé. La prospérité, la terre où coule le lait et le miel, semble bien inatteignable en cette période troublée. C'est ce que nous dit finalement Isaïe quand il nous parle de Jessé. Nous sommes là 1000 ans avant Jésus-Christ. Jessé habite un petit village sans importance, qui s'appelle Bethléem, mais il ne semble pas que la solution vienne de lui et de sa famille. Les espoirs sont comme éteints, tel un arbre mort. Il ne reste plus qu'une souche, une souche en train de pourrir. Mais l'heure de Dieu est bien différente de celle des hommes. L'espérance voit naître un rameau qui va sortir de ces vieilles souches. Une pousse va jaillir de cette souche désertée par la vie. En effet, l'un des huit fils de Jessé, le prophète Samuel, sera envoyé pour choisir un roi. Sur la vie de Dieu, il ne choisira pas le plus grand, ni le plus fort, ni le plus aisé. Il choisira le plus jeune, celui qui était sans importance, encore une fois, qui était resté au champ, garder les troupeaux. C'est ce jeune David qui va devenir ainsi le grand roi d'Israël. Alors, enfin, plus qu'un rameau, ce seront des racines qui vont renaître de Jessé. L'espérance va renaître et David et Jessé seront les ancêtres d'une longue lignée, d'un arbre qui paraissait mort, d'une souche putride, un rameau va jaillir. Le prince tant attendu, le Messie, va venir. Le descendant de David, le fameux roi Messie, va arriver bientôt. Sur lui reposera les sept dons du Saint-Esprit, ce fameux sept qui symbolise la plénitude. Il sera guidé par la crainte du Seigneur, c'est-à-dire finalement cette filiation, cet amour filial. Aussi, ses actions seront entièrement guidées par la justice. Nous avons là tous les attributs de Dieu qui sont réunis en David et dans le Messie. Le fils d'Ève, le fils du serpent, sera relevé par le fils de Marie. Au oui de Marie va succéder un autre oui. Celui qui est souvent un petit peu oublié, c'est celui de Joseph. Parce qu'il a fallu que Joseph adopte le Messie. Il a fallu que Joseph puisse prendre Jésus et le faire rentrer dans la descendance de David. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Si Jésus est né de Marie, il n'est pas engendré par Joseph. Mais par le oui de Joseph, et en lui donnant son nom de Jésus et d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous et Dieu sauve, eh bien Joseph fait entrer Jésus dans la grande descendance de David. Il le fait entrer dans la promesse de Dieu. Dieu est dépendant du oui de Joseph. Et ainsi, le Fils de Dieu entre dans l'histoire d'Israël. Toute prophétie s'accomplit. Ainsi, la prophétie d'Isaïe se réalise. La promesse de Dieu voit enfin le jour. Par son incarnation, c'est l'avènement de toutes les attentes d'Israël. Alors pour nous, relire ces lignes, faire mémoire de ces événements et de cet grand avènement, c'est poser un acte de foi considérable et fonder notre espérance sur celle d'Israël. Joseph est un moment charnière de la vie de l'Église. Il est un moment charnière avec la nativité, la visite des mages, la fuite en Égypte, jusqu'au massacre des saints innocents. Ce sont autant d'événements qui nous montrent, qui nous préfigurent, qui nous montre finalement le mystère de Jésus. Fils de David, fils de Dieu, roi véritable, voilà déjà la persécution. C'est maintenant au tour de Jean le Baptiste, le précurseur, de nous préparer à accueillir l'avènement, le salut de Dieu. La promesse de devenir une multitude ne consiste pas tant pour Israël à étendre le royaume d'Israël, à conquérir de nouvelles nations, de convertir de nouveaux païens, non. Il s'agit de s'ouvrir à un autre royaume, au royaume. Il consiste à rendre accessible à tout homme de bonne volonté le royaume de Dieu, le cœur de Dieu. Les fils d'Ève peuvent enfin avoir l'assurance de retrouver leur dignité de fils de Dieu. Le salut, c'est plus de restaurer le salut, le paradis perdu. Ce n'est pas tant de revenir à ce paradis si beau et merveilleux, c'est plutôt de goûter à la réalisation de la promesse de Dieu. C'est devenir fils d'un Dieu qui s'est penché sur la misère de son peuple. Le désert, dans lequel prêche Jean le Baptiste, ses vêtements, sa nourriture, lui donne de ressembler à l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament. Il ne s'agit plus là de bâtir ou de traverser des déserts. C'est l'heure finalement de rendre droit les chemins du Seigneur, de rendre droit les chemins de notre cœur, d'aplanir les obstacles que nous posons à la volonté du bon Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il est l'heure. Il est l'heure aujourd'hui de se convertir. La bonne nouvelle, c'est que nos arbres morts, nos souches putrides, peuvent enfin se réveiller. De là peut enfin jaillir un rameau, la racine de Jessé. Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Jean le Baptiste va s'évasser devant ses propres disciples pour laisser le Christ prendre toute sa mesure, toute la place dont il a besoin. Moi, dit Jean le Baptiste, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Dieu ne veut qu'une seule chose pour nous, c'est que nous portions du fruit, du bon fruit. Alors, il est l'heure, en ce début d'année liturgique, de faire le point. Il est l'heure de voir où nous en sommes de notre espérance. Attendons-nous encore quelque chose ? Dieu a-t-il accompli quelque chose en nous ces derniers temps ? La bonne nouvelle, l'Écriture, si nous la lisons, nous devrions, si l'on peut dire systématiquement, y percevoir des signes pour nous, des signes de nombreux avènements dans notre propre vie. Alors, profitons de ce temps de l'Avent pour prendre du temps, pour lire la parole de Dieu, pour se la refamiliariser, pour la réadopter, pour pouvoir y lire des signes justement de cette bonne nouvelle. Nous y trouverons l'espérance qui donne la persévérance et le courage pour faire face à chacune de nos journées. Amen.